CFM, le MAG, tous les jours, 17h-17h30, la vie du Tarn-et-Garonne.
Bonjour, bonjour tout le monde, le MAG du Tarn-et-Garonne, comme chaque jeudi consacré à la politique, Kader Youb est dans nos studios, bonjour Kader.
Bonjour Rémi,
et ton
bonjour
invité aujourd'hui,
Thierry Deville.
Thierry Deville, porte-parole de la liste de Brigitte Barège au municipal de Montauban.
Bonjour Thierry Deville.
Bonjour.
Bonjour.
Près de 40 ans après la loi Veil, l'article 5 du projet de loi pour l'égalité femmes-hommes qui supprime la notion de détresse pour une femme souhaitant avoir accès à une interruption volontaire de grossesse a été adopté hier soir. L'IVG est un droit à part entière et pas une simple tolérance à la sortie de conditions. Ce sont les mots de Najat Vallaud-Belkacem. La droite est apparue divisée sur ce sujet, majoritairement contre tout de même. Qu'auriez-vous fait si vous étiez député Thierry Deville?
Sans hésiter, j'aurais voté le texte naturellement. La droite est divisée, je dirais, comme disait un éditorialiste il n'y a pas très longtemps, joli coup politique de François Hollande. Je crois qu'on peut tout le reprocher, sauf de ne pas savoir faire de la politique. Ce texte arrive bien entendu au moment opportun, après le pacte de responsabilité où il s'est mis la partie de son électorat de gauche à dos. Et qu'est-ce qu'on fait? On essaye de contrebalancer. Effectivement, au milieu de ce texte, on sort cet état de détresse.
Le calendrier des lois est prévu à l'avance.
Oui, mais enfin, cet amendement qui est sorti, au même titre que vous pourriez me parler de l'amendement des Verts, par exemple, je crois, de Brigitte Boutin, qui essaye de maintenant enlever la notion du bon père de famille. Je ne sais pas si vous êtes au courant de cet amendement, mais y compris dans ce texte. Non, je crois que c'est effectivement un coup politique. On essaye sur un sujet, il faut être cohérent.
Mais la droite, vous l'auriez voté quand même.
Ah, j'aurais voté sans hésitation. Mais la droite, sur les sujets de société, est effectivement divisée. Autant elle est tout à fait en symbiose sur les sujets économiques, autant elle est divisée parce que ça fait appel à toute une série de réflexions individuelles. Et il n'y a pas de, j'allais dire, il n'y a pas de monochrome, de monocouleur. Et d'ailleurs, il y avait une liberté, si ma mémoire est bonne, de vote des parlementaires. Et donc, il y en a toute une série qui ont voté ce texte. Pour mémoire quand même, pour en terminer sur ce texte, l'état de détresse n'a jamais été soutenu, si ma mémoire est bonne, pour un seul IVG en France. Ce sont les enquêtes qui l'ont montré. Donc, bien entendu, je l'aurais voté, mais à titre superfétatoire, lorsque Christian Jacob, je crois, président du groupe UMP, a dit que dans l'absolu, ça ne changerait pas grand-chose, je partage. Dans l'esprit, peut-être, dans l'esprit, rien du tout, puisque en tout état de cause, cet état de détresse qui s'expliquait à l'époque de la loi Veil n'a jamais été utilisé.
Ah oui.
Est-ce que à ce moment-là, est-ce que c'est un message lancé à l'Europe avec ce qui se passe en Espagne? Est-ce que c'est important de lancer un message comme celui-là?
Bien entendu que c'est important. Bien entendu, je crois qu'aujourd'hui, il est évident qu'une femme doit être libre. Libre de son corps, libre de c'est un acte extrêmement complexe. C'est pas un acte anodin. Je pense que il n'y a pas d'interruption volontaire de grossesse qui soit faite par plaisir. Et je me félicite qu'effectivement aujourd'hui notre pays soit moderne par rapport à ces notions. Même s'il est évident qu'il ne faut pas pour autant essayer de le banaliser, l'IVG ne reste pas un élément de contraception. Et ici, j'en profite pour vous dire tout le courroux que m'inspire le texte qui est en préparation en Espagne. Effectivement, je crois que c'est un message fort qu'a donné la France à ce niveau-là.
Bon, vous êtes conseiller régional de Midi-Pyrénées et conseiller municipal à Montauban. Avez-vous le sentiment d'incarner un renouvellement, un rajeunissement de la classe politique?
Mais en tout état de cause, c'est un sujet très important. Oui, bien sûr, évidemment. D'abord, le rajeunissement, c'est quoi? Ce n'est pas l'âge. C'est déjà les fonctions, la durée des fonctions. J'ai beaucoup de respect pour mes opposants. J'observe quand même que Roland Garrigue l'a écrit dans son livre il n'y a pas très longtemps. Ça fait 40 ans qu'il fait de la politique. J'observe que le numéro 3... porteur de messages forts pour les radicaux, José González, pour qui j'ai beaucoup d'affection, était déjà sur la liste de Louis Delmas en 1977. Et j'observe aussi que Brigitte Barège, aujourd'hui, arrive à sa 13e année de mandat. Elle a succédé à 36 ans de pouvoir socialiste. Ça veut dire que si demain elle est élue, au terme de ce mandat-là, elle n'aurait que 18 ans de mandat, c'est-à-dire la moitié des 36 ans de pouvoir socialiste. Alors oui, je crois qu'effectivement, il faut du renouveau pour impulser de la dynamique. Et il faut toujours écouter CFM. L'autre jour, par exemple, ça n'a pas été très commenté. J'étais surpris, presque déçu de la position de Valérie Rabault, parce que je pensais qu'elle était le renouveau de cette liste. Et je crois qu'on a transformé le renouveau en alibi, puisque tout de suite elle a dit qu'elle ne participera à aucun exécutif. C'est dommage. C'est dommage dans la mesure où, lorsqu'on est élu,
elle ne participera pas à un exécutif, puisque la loi est votée depuis.
Non. La loi est votée avec une application en 2017, et elle pouvait aussi se positionner en disant je vais impulser ce renouveau, cette dynamique, et participer pendant 3 ans, et ensuite choisir éventuellement le mandat que je préfère. C'est vrai, en tant qu'élu, je pense que lorsqu'on est positionné sur une liste à ce niveau-là, où on se met 45e pour porter un projet au nom d'eux, ou alors on assume lorsqu'on est dans les places, je crois qu'en l'occurrence c'est le numéro 2.
Est-ce que c'est pas faire preuve d'honnêteté aussi intellectuelle vis-à-vis de ses électeurs en s'étant battu contre le cumul des mandats et finalement à seule application.
Je ne lui reproche pas l'honnêteté. Je dis juste qu'il est dommage d'avoir cette position-là, ce qui fait qu'aujourd'hui on a un numéro 1, Roland Garrigue, 40 ans de politique, numéro 2, José González, pas beaucoup, 40 à 45 ans de politique, et derrière un numéro 3 peut-être Claude Mouchard, encore une fois, ce sont des gens que j'aime beaucoup, mais qui quand même étaient déjà directeur de cabinet d'Hubert Gousse, donc on peut dire 30 ans de politique. Ça veut donc dire quand même qu'on est vraiment, je crois que c'est l'Express qui l'a titré, pas moi, c'est un peu quand même retour vers le futur.
Quel est votre avis sur le statut de l'élu? Vous en parlez, avez-vous des souhaits en la matière? Est-ce qu'il faudrait faire un contrat, rapprocher du privé?
Oui, je pense qu'il faut que tous les élus, c'est tout le monde. Lorsqu'on critique la classe politique, on se critique soi-même. Tout le monde peut devenir élu demain. C'est pas un état particulier. Moi, je pense par exemple que le cumul des mandats, c'est l'euthanasie de notre vie politique. Je suis effectivement pour ce texte. Je pense qu'il fallait effectivement prévoir ce cumul des mandats. Je crois qu'on pourra en rajouter un autre qui est afférent à la durée des mandats dans le même mandat. Et je crois aussi qu'on pourra rajouter un statut de l'élu qui fait que lorsque quelqu'un travaille dans le privé, il puisse accéder comme un fonctionnaire à des fonctions électives, ça serait sain et bon pour la société. Nonobstant la parité dont on parle beaucoup, il y a d'autres éléments aussi très forts. Renouveler le personnel politique, c'est permettre d'avoir des gens qui, lorsqu'ils vont faire ce mandat, vont s'y consacrer pleinement et feront ensuite autre chose et retourneront dans leur vie, passez-moi l'expression, leur vie de tous les jours, avec humilité et simplicité.
Alors, nouveauté à partir de du scrutin à venir sur les élections municipales, c'est le fléchage des conseillers communautaires, c'est-à-dire qu'on votera pour deux listes, quelque part, un bulletin et deux listes. Quel est votre avis sur cette réforme?
Sur cet aspect-là, c'est une très bonne réforme, c'est la transparence. Lorsque vous allez voter pour quelqu'un, vous saurez que ce quelqu'un, c'est un sujet très important. Lorsqu'on vote pour la mairie de Montauban et lorsqu'on flèche pour la communauté d'Aglo, il faut savoir que la communauté d'Aglo, c'est 82% le maire de Montauban. Voilà un sujet sur lequel on pourra en parler, la gouvernance. Lorsque j'ai appris il n'y a pas très longtemps que la gouvernance communauté d'Aglo et mairie de Montauban seraient dissociées si jamais Roland Garrigue venait à gagner cette élection, je le dis très simplement, c'est une catastrophe pour la ville de Montauban. Parce qu'il faut vraiment...
Dissocier, c'est-à-dire?
Dissocier. J'ai appris qu'effectivement, la communauté d'Aglo serait exercée a priori par José González au titre des radicaux de gauche dans un accord, Roland Garrigue étant maire de Montauban. Mais c'est, à mon avis, une véritable problématique de gouvernance. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait un gros investissement, la mairie va acter cet investissement, mais imaginez une seule seconde que la communauté d'Aglo ne soit pas d'accord. Donc c'est déjà compliqué quand les gens sont du même parti. Vous imaginez, ils ne sont pas du même parti, ils sont différents. Je crois que c'est une erreur. Moi qui suis pour un cumul de mandat très strict, je pense que le mandat de maire et de président d'une communauté d'Aglo, surtout dans une cité comme la nôtre, est un enjeu fondamental.
Aujourd'hui, tout est réuni, achèvement de la carte intercommunale, renforcement des compétences des groupements, fléchage, on vient d'en parler, pour qu'une révolution institutionnelle se produise, à savoir que les EPCI, établissements publics de coopération intercommunale, c'est-à-dire les Grands Montauban, pour ce qui nous concerne, deviennent le quatrième échelon territorial, alors qu'on parle d'une révolution territoriale, de décentralisation, acte 3 et puis 4 bientôt. Quel est votre sentiment?
Faudrait
peut-être fusionner le Grand Montauban avec le Conseil Général? Est-ce que ça pourrait être une idée?
Je pense tout simplement, commençons par avoir ce qu'on appelle non plus des clauses de compétences générales comme l'accorde par exemple le Conseil Général, mais des clauses de compétences qui soient ciblées. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous avez un département qui a une compétence générale, effectivement, il va pouvoir, au gré de sa volonté, abonder tel ou tel dossier, telle ou telle action. Ciblons la compétence de chacune des unités et nous aurons ensuite une véritable politique et ça évitera notamment les financements croisés dont on nous reproche aujourd'hui toute une série de mots. Je crois que plus on clarifiera les compétences de chacun, mieux on se portera.
Aujourd'hui, donc, vous voulez pas me dire si votre rapprochement entre le Conseil Général du Tarn-et-Garonne et le Grand Montauban pourrait être une solution
Mais techniquement, ça peut pas être la solution juridique. Il faudrait pour ça qu'on ait une suppression des départements. Si vous parlez d'un rapprochement pratique, mais bien entendu que je suis pour. Exemple, lorsqu'on fait le pont de l'Exos qui coûte 9 millions d'euros, j'attends que le Conseil Général le finance. Lorsqu'on fait une piscine de 25 millions d'euros où tous les collégiens viennent se baigner, c'est la seule piscine de la région où le Conseil Général n'a pas voulu financer ni le Conseil Régional. Bien sûr que j'aimerais qu'ils abondent. Oui, aujourd'hui, il y a des financements et des participations croisées. On essaye d'arrêter les projets de Montauban. On n'y arrive pas en essayant d'étouffer Montauban. Et là où on atteint la cerise sur le gâteau, c'est que Brigitte Barège attend ces sommes qui lui reviennent et on dit non, elle se bunkerise comme si elle ne voulait pas de ces millions. C'est une énorme erreur. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, le Conseil Général, le Conseil Régional, pour des raisons qui leur appartiennent, ne veulent pas soutenir les projets de la ville de Montauban. Ils se font sans eux. Ils ne se font certainement pas au détriment des Montalbanais. Par contre, bien entendu, nous sommes preneurs de tous les millions qui sont dus aujourd'hui à la ville de Montauban et à l'agglo, pour mémoire, 6 à 7.
Une courte page de pub dans ce rendez-vous politique avec Kader Youb. Aujourd'hui, c'est Thierry Deville, on le retrouve dans quelques instants.
CFM à Montauban. Montauban. 101.2. 101.2. Environnement Multiservice, votre entreprise de travaux d'entretien d'espaces verts, tonte, taille de haies, d'arbres, d'arbustes, plantations, nettoyage de locaux, bureaux, immeubles, petits déménagements, collecte des déchets verts, gravats, archives, fer, bois, pour professionnels, particuliers et collectivités. Environnement Multiservice, tous travaux ponctuels ou à l'année, avec professionnels et particuliers, 416 avenue Jean Moulin à Montauban, 05 63 20 07 44, 05 63 20 07 44, études et devis gratuits. Examinons ce que l'on peut entendre en conduisant sa voiture. Ça, vous l'entendez?
Non mais t'es complètement con. Mais t'as eu ton permis dans une pochette surprise? Va donc, t'es con.
Ça, vous l'entendez aussi. Et ça, vous l'entendez? Vous l'entendez pas? C'est une affiche publicitaire. C'est prouvé. Dans sa voiture, la publicité qu'on voit le mieux, c'est celle qu'on entend. Grâce à CFM, vous captez en tout temps et en tout lieu l'attention de vos futurs clients en diffusant votre publicité sur 4 départements d'un seul coup. CFM Normidie-Pyrénées.
Les habitants vont entendre parler de vous!
Qu'est-ce qu'on déguste tous les vendredis à 17h30?
Non, là, on voit un blanc de berticot.
Spécialité de la petite ferme.
Donc, entre les flans, les riolés, les semoules, les glaces. Voilà, je vous entendais dire, on fait pas de beurre. Alors, on a eu fait du beurre.
Attention, attention.
Je fume mon verre.
Je vais pas jouer au petit bordelais. Hein.
Bon, pour parler jazz, je vais vous parler aujourd'hui de Kenny Burrell, qui est né à Détroit, Michigan.
Qu'est-ce qu'on déguste tous les vendredis à 17h30?
Un petit morceau de poire par-dessus.
Sur CFM.
CFM.
Il y a du rock.
C'est d'ailleurs ça qu'on la reconnaît.
Salut, c'est WG sur CFM pour Crossroad. Je vous donne rendez-vous dans l'émission sur la route du blues. Et évidemment, il y a quelques morceaux de rock'n'roll dedans. Crossroad, c'est le mardi à 22h. La rediff, c'est le dimanche à 20h. Alors, un mardi, salut.
CFM, l'esprit rock.
CFM à Castelsarrasin. Castelsarrasin. 90.7. 90.7.
Vous êtes sur CFM Radio, c'est le rendez-vous politique avec Kader Youb, aujourd'hui Thierry Deville. Avant de te redonner la parole, Kader, si tu veux bien, j'aimerais vous soumettre un petit fait d'actualité, Thierry Deville. Vous n'êtes pas sans savoir que une révolution court en Ukraine, et il semblerait que les manifestants, qui ont par ailleurs été chargés à balles réelles ces jours-ci, là, aujourd'hui et hier, aient été géolocalisés par leur téléphone portable et tous reçu un SMS du style, eh bien, vous êtes maintenant catégorisé dans les fauteurs de troubles. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette utilisation des nouvelles technologies par des dictatures comme ça?
Un mot, scandale. Scandale, et je pense surtout à tous ces gens qui sont, tout ce peuple qui se lève en fait pour demander qu'une chose. Demander de rentrer dans cette Europe sur laquelle certains tirent à boulets rouges chez nous, et j'ai vu un jeune de 20 ans qui vient de décéder, qui se battait pour des idées. Non, bien entendu, la géolocalisation, si ça doit être la nouvelle façon de gérer ce qu'on appelle une émeute, je trouve ça absolument scandaleux, bien entendu.
Alors, n'y voyez pas de malice, mais 70 caméras supplémentaires, enfin pas 70, il y aura 73 caméras d'ici la fin 2014 sur Montauban. Un nouveau centre de supervision urbaine vient d'être inauguré. Qu'est-ce que ça vous inspire?
Ah mais ça m'inspire que du bien. Et au passage d'ailleurs, ça serait bien de regarder les chiffres de la délinquance. J'ai noté qu'ils étaient très mauvais sur la France. Je vous donne moi des chiffres sur Montauban, vérifiables bien entendu. Délinquance centre-ville, -8,40 en délinquance générale, -16,38 en délinquance automobile, -54,17 en délinquance sur les véhicules et -63,63 sur la dégradation. Alors je vais vous dire, la sécurité c'est le patrimoine du pauvre. C'est le patrimoine de celui qui n'a rien. Lorsqu'on a été victime de violence, lorsqu'on a été victime de vol, lorsqu'on a été victime de dégradation, on se sent souillé, on se sent violé. Alors oui, tout part par là. La sécurité aujourd'hui est un élément clé non pas que de la politique de Brigitte Barège, mais un élément clé de ce que doivent faire les politiques municipales. Et effectivement, en l'occurrence, il y a une grosse différence entre Roland Garrigue et Brigitte Barège, puisqu'elle a gagné sur la sécurité en 2001. Tout de suite, Roland Garrigue a voté contre aucun de ces textes, ni l'armement de la police municipale, ni les caméras vidéo en 2006. En attendant, aujourd'hui, ça permet de restructurer un centre-ville, ça permet de restructurer une cité, sans vivre dans une cité, comme si on était à Chicago. Souvenez-vous de 2001, le centre-ville, c'est à côté de mon cabinet, les voitures béliers. On avait toute une série de SDF, d'agressions et autres. Non, je crois qu'encore une fois, cette sécurité, on doit y être attaché, non pas pour se sentir fliqué, mais pour se sentir protégé, tout simplement.
La vidéo est utilisée dans les tribunaux, vous qui êtes avocat,
Bien entendu, c'est la police surtout qui l'utilise comme metteur. Mais je vous rappelle qu'aujourd'hui, M. Valls a rappelé l'intérêt de cette vidéo. M. Valls demande, regardez dans sa ville, donc je crois que non. Brigitte Barège avait tout simplement un temps d'avance. Si vous verrez que, d'ailleurs, le front de gauche qui gère une ville, je ne sais plus laquelle, vient d'adopter... Même eux, les vidéos, donc je crois qu'il faut arrêter d'essayer de simplifier le problème. La sécurité est bonne pour chacun d'entre nous.
Vous avez cité José González hein, comme étant donc le troisième sur la liste de Roland Garrigue, Thierry Deville. Et José González qui n'y va pas de même ordre sur la mandature et sur ses dirigeants actuels. Brigitte Barège qui ne comprend pas qu'en s'alisant dans son refus de travailler main dans la main avec la région, elle adopte une attitude suicidaire. Les gens en ont marre de ce blocage politicien. La dette de la ville est vertigineuse. Le maire a cédé beaucoup de services municipaux et des réalisations dans des opérateurs privés. Ça vous inspire quoi cette théorie?
Ce sont des mots au service des mots. Je connais José, je suis étonné de ses excès, puisque c'est plutôt quelqu'un d'équilibré. Si on prend les sujets les uns après les autres, la dette, première observation, elle est inférieure à la dette cumulée, 1736 euros, à des villes comme Castres, des villes comme Albi, des villes comme Auch, des villes comme Toulouse. Donc, c'est déjà une première observation. Seconde observation, on apprécie le poids d'une dette par rapport à la notion d'investissement. 300 millions d'euros directement, 300 millions d'euros indirectement pendant le mandat. C'est absolument colossal. Lorsqu'on regarde le rapport de la Cour des comptes, nonobstant tout ce qui peut être raconté, on estime qu'effectivement la ville de Montauban est parfaitement gérée. Lorsqu'on dit, j'en termine sur le point très important, qui est le nouveau aujourd'hui, c'est le nouveau slogan, Brigitte Barège serait bunkerisée, elle serait coupée de tout le monde. Faux. Le conseiller général ne veut pas lui donner d'argent. Le conseiller régional ne veut pas lui donner d'argent.
Y compris dans son propre camp.
C'est un raisonnement absurde. Non. Lorsque vous êtes maire, vous estimez qu'une chose, vous ne souhaitez qu'une chose. C'est que lorsque vous montez un projet, tout le monde abonde. C'est l'obligation des financements croisés. Il n'y a qu'ici qu'on ne les finance pas. Sauf que Brigitte Barège l'ai fait avec ou sans les cofinancements. Et ça, c'est quelque chose qui pose un problème à la gauche parce qu'elle constate qu'à la fois la ville évolue, nonobstant le fait qu'effectivement le conseiller général et le conseiller régional mettent tous les freins pour éviter que cette ville bouge. Et là où j'en veux beaucoup aux conseillers généraux qui sont présents à la ville de Montauban, demain elle doit évoluer. Aujourd'hui, un citoyen de Figeac va peser 46 ou 47 euros par habitant. Un citoyen de Montauban à la région ne pèse que 7 ou 8 euros par habitant. C'est absolument lamentable. La métropole toulousaine, on reproche à Brigitte Barège de ne pas s'y intéresser, c'est totalement faux, puisque Moudenc, lorsqu'il était maire de Toulouse, a fait la métropolisation. Brigitte Barège est devenue secrétaire de cette association dans laquelle les maires de gauche n'ont pas voulu rentrer au départ et n'y rentrent que maintenant parce que Pierre Cohen de gauche est devenu maire de Toulouse. Donc je crois qu'on ne peut pas lui faire grief de s'intéresser à la région, à Toulouse et au conseil général.
José González évoque aussi des menaces sur des responsables associatifs.
Alors, écoutez, les menaces, elles ne sont pas voilées. Il parlait de Jean-Claude Jouve, qui présidait le club de natation. Écoutez, lorsque j'ai vu ça, j'étais extrêmement étonné, puisqu'il visait le club de natation. Je suis donc allé voir naturellement l'épouse de Jean-Claude Jouve, je vais être transparent. Jean-Claude Jouve, c'est pas de chance, c'est un proche de Brigitte Barège. Jean-Claude Jouve a œuvré pour que ce club soit l'un des plus beaux, en coprésidence avec Valentin, le plus beau de la région. Jean-Claude Jouve, je vais vous dire en secret, il a arrêté son activité, j'ai l'autorisation de vous le dire, tout simplement parce qu'il a des problèmes physiques personnel.
Oui, mais alors pourquoi ces déclarations de José González?
Je n'en sais rien. Je pense que José, à mon avis, s'est lâché, malencontreusement lâché, et j'espère qu'il reviendra à plus de mesures. Surtout que, en matière de logement social, il aurait pu rajouter que c'est quand même la ville de Montauban sous l'égide de Brigitte Barège qui a construit de plus de logements sociaux. Il aurait pu rappeler combien la rue investit 150 millions d'euros pour refaire toute la Cité des Chaumes. Et celui qui habite la Cité des Chaumes, aujourd'hui devenu quartier de la médiathèque, sait pourquoi et comment ce qu'il doit à Brigitte Barège. On a juste oublié de le dire. Je le regrette puisque José González est président de Tarn-et-Garonne Habitat et donc je l'imagine très sensible au logement social.
quand la liste de Garrigue, Rabault,
Gonzalez
dit que Brigitte Barège se bunkerise, ce qu'ils sous-entendent par là, c'est que eux, si demain ils sont élus, comme ils s'entendent bien avec la région et le Conseil général, eh ben non seulement ils auront les financements de la municipalité, de l'agglo, mais aussi ils auront facilement les financements de la région et du Conseil général.
L'avocat que je suis peut pas imaginer ça. Ça voudrait dire aujourd'hui qu'on serait le seul département de France, je dis bien de France, c'est la seule ville de France, où on aurait en fait, si on a une monocouleur, tout va bien, c'est ça un peu. Si on a une monocouleur, mais vous imaginez, j'espère que le peuple entend ça, parce que rien que pour ça, le peuple doit se lever. La ville de Montauban a avancé, indépendamment de tous ces financements. Mais si c'est ça, c'est totalement insidieux.
On serait dans une dictature de pensée.
Ici. Je peux pas imaginer que ce soit cette interprétation, parce que j'en serais déçu et surpris, j'en ferais moi-même un élément de campagne pour dire au peuple, peuple, soulevez-vous. C'est parce que vous n'êtes pas dans la pensée unique, vous n'aurez pas d'argent, et bien on fera sans argent, comme ça a été fait, en embellissant, en faisant avancer cette ville, en croyant à ce que l'on croit, en croyant au devenir de Montauban. Et je pense qu'aujourd'hui, Brigitte Barège, elle est architecte que d'une seule vérité. Ce sont ses réalisations. Je comprends effectivement que ce soit assez compliqué pour certains.
Thierry Duville, vous êtes, et on vous entend dans votre rôle, plaidoirie et avocat de Brigitte Barège, en tout cas pour ce qu'elle a ou ce qu'elle n'a pas fait. On vous surnomme, peut-être l'avez-vous entendu, le Besson de Montauban, hein, allusion au Besson qui avait quitté son parti pour rejoindre l'UMP en étant finalement le plus ardent défenseur de la politique de Nicolas Sarkozy. Est-ce que ça vous dérange et vous sentez-vous accepté par le peuple UMP de Tarn-et-Garonne?
Alors, première observation, ça fait l'objet l'autre jour de meeting, je vais vous redire. Lorsque Roland Garrigue, avec qui j'ai vraiment les meilleures relations du monde, un homme absolument charmant, le problème n'est pas là, lorsqu'il me dit « tu as changé », je lui réponds « tu as raison, j'ai changé ». Mais il n'y a qu'un problème. Roland Garrigue, lui, il n'a pas changé. Rien n'a changé chez les radicaux, rien n'a changé chez les socialistes. Croyez-vous que le monde est le même aujourd'hui en 2001 qu'en 2013-2014? Croyez-vous que François Hollande, lorsqu'il vend le pacte de responsabilité, ressemble plus à qui? À Mélenchon ou à Nicolas Sarkozy? Croyez-vous que lorsque on fait une politique comme fait celle de François Hollande, on essaie de faire quoi? De faire un peu comme l'original, mais moins bien. Quand je vois que les heures supplémentaires ont été abolies, c'est 10 millions de personnes qui percevaient 120 euros, 150 euros, 200 euros par mois. Du jour au lendemain, on les a supprimés. C'est pas social. Quand on impose des gens qui ne payaient pas d'impôts et on leur fait payer les impôts, c'est pas social. Quand on impose les mutuelles dans les revenus, on payera encore plus d'impôts. Le pauvre. Non, fiscaliser le pauvre n'est pas mon truc. Aujourd'hui, je ne regrette rien parce qu'à un moment donné, celui qui n'évolue pas, c'est celui qui ne réfléchit pas. Aujourd'hui, la politique est ainsi faite que le monde a changé, le monde s'est révolutionné. Sauf que, et je peux vous le dire, je pense que c'est plus la droite et la gauche le clivage, c'est entre les modernistes et les réactionnaires. Je crois qu'aujourd'hui l'approche de la gauche, malheureusement, est réactionnaire. Et lorsque je reviens sur le texte sur les heures supplémentaires, c'est que prendre de l'argent aux pauvres, ça m'apparaît à moi complètement scandaleux.
Mais est-ce que vous n'avez pas répondu à ma question, est-ce que vous sentez accepté par la famille?
Écoutez, est-ce que je propose...
Est-ce que vous considérez comme un homme de droite, finalement, maintenant?
Je suis quelqu'un d'équilibré. Je suis quelqu'un sensible au peuple. Je suis quelqu'un sensible à l'économie. En tout état de cause, je ne me retrouve pas dans la fiscalité que propose François Hollande. Je ne me retrouve pas dans ses choix de société. C'est une évidence. Nicolas Sarkozy avait peut-être beaucoup de défauts, mais lorsque
les choix qui se rejoignent finalement.
Lorsque je regarde aujourd'hui, ne serait-ce que les comportements, je souris d'ailleurs parce qu'on peut faire un espèce de parallélisme entre les comportements de Sarkozy et de Hollande. Hollande voulant ressembler à Sarkozy, mais regardez la campagne de Roland Garrigue. Il fait la même que celle de Brigitte Barège en 2001. Il va se prendre en photo sur le musée Ingres. Il va multiplier les cafés. Il va faire les cafés exactement comme
c'est la campagne, ça,
donc aujourd'hui, je crois que non. Aujourd'hui, il faut être, à mon avis, sérieux et responsable. Le monde évolue, on doit évoluer. Quant au peuple, vous l'appelez le peuple de l'UMP. Écoutez, j'ai presque envie de vous dire, je ne me suis jamais senti aussi aimé par les militants. Peut-être que je me trompe, mais vous savez, j'étais à la Maison du Peuple l'autre jour, j'étais à Sapiac il y a une semaine, j'ai trouvé tout simplement beaucoup d'affection, beaucoup d'amitié, j'ai trouvé beaucoup de compréhension, et je crois, oui, je crois réellement, mais encore une fois, il est extrêmement difficile de penser soi-même que les autres vous aiment.
Serez-vous au numéro 2 de la liste?
Est-ce qu'il y a une campagne à l'intérieur même de la liste de Brigitte Barège entre Pierre-Antoine Lévy et vous?
Je vous arrête tout de suite, je vous l'avais dit en
préambule. Serez-vous au numéro 2?
Je vous l'avais dit en préambule. Petit 1, je suis ici, je vous l'avais dit de le rappeler, vous l'avez fait à juste titre. Je ne suis pas numéro 2 de ce lit, je suis le porte-parole de la liste.
Certes, mais vous le serez, numéro 2.
Mais si c'est un pouvoir discrétionnaire qui appartient totalement, celle qui dirige la liste, elle va couper, elle va trancher, elle va analyser, je ne suis au courant de rien, je ne sais pas. Et en tout état de cause, ce que je sais, c'est que je fais partie d'un projet collectif et je serai à la place à laquelle
alors,
on vient me
mettre. Alors, je vais vous poser la question autrement, est-ce que vous êtes candidat
Ça se passe pas comme ça. On est candidat à rien dans une liste. Je serai à la place à laquelle on veut bien me mettre. Et croyez-moi, à la place à laquelle
plutôt
on veut bien me mettre.
La numéro 2 que la numéro 3.
À la place à laquelle on veut bien me mettre, je serai.
Vous aviez quitté un parti, Thierry Deville, parce qu'à l'époque, vous n'agissiez pas assez. Vous trouviez sclérosé. Enfin, pas assez dans l'action.
La preuve en est qu'aujourd'hui, j'ai bien fait. Jamais j'ai été aussi proche, effectivement, de quelqu'un comme Brigitte Barrège. Elle partage ses décisions. Elle écoute. Elle délègue. Regardez aujourd'hui.
Donc vous seriez dans l'action, quand même,
je serais dans une action la plus totale. Brigitte Barrège n'est pas la femme qu'on essaye de décrire. C'est pas un autocrate. Au contraire, bien au contraire. Elle écoute, elle entend. Par contre, elle tranche et elle coupe parce que, à un moment donné, c'est elle qui est en responsabilité. Mais regardez aujourd'hui, si elle voulait se mettre en lumière, elle aurait pu venir. Elle aurait pu venir essayer.
On l'a déjà reçu.
Non, mais c'est pas son genre. Une campagne municipale, c'est pas. Non, je crois que aujourd'hui, on est dans une étape de partage. Et je pense que chacun doit être à sa place. Et j'en terminerai en vous disant qu'il y a une campagne électorale qui s'ouvre et il y aura une gouvernance derrière. Valérie Rabault l'a bien montré. Valérie Rabault, si ma mémoire est bonne, est bien numéro 2 et ne participera même pas à un exécutif. Ce que je peux vous dire, c'est que je ne sais pas quel dossard j'aurai. Par contre, je participerai à l'exécutif, si tant est qu'on m'en laisse la responsabilité, bien entendu.
Une dernière question, Rémi.
Reste 2 minutes.
Oui, rien à voir avec Montauban, quoique, il y a eu un sondage qui a été réalisé pour le CEVIPOF, Fracture française, peut-être en avez-vous entendu parler, des confirmations sur la demande d'ordre et d'autorité des Français, toujours très, très élevée, sur la défiance également à l'égard d'autrui et du monde extérieur, mais aussi du système politique, sur l'hostilité enfin à l'égard des étrangers et de l'islam. Que vous inspire ce rapport à ce sondage?
Je l'ai lu, bien entendu. Je pense qu'il faut éviter de se replier sur soi-même. Par contre, effectivement, il faut éviter de multiplier. Lorsqu'on écrit, je pense notamment à ce qu'a pu écrire Valérie Rabault dans Les Trente Glorieuses, pensez, imaginez une seule seconde qu'il faut faire rentrer 300 000 immigrés de plus, c'est-à-dire 10 millions d'immigrés, c'est ce qu'elle écrit jusqu'en 2040. Pourquoi? Pour sauver notre système social, c'est ce qu'elle écrit. Je pense que je préfère me référer au patron de la Cour des comptes, Didier Migaud, socialiste, qui dit écoutez, arrêtez. Aujourd'hui, le vrai problème, c'est le social, c'est pas le budget de l'État 20%, c'est pas le budget des collectivités publiques 17%, c'est le budget du social qui pèse 660 milliards d'euros, 46% du budget total. Et lui, moi Didier Migaud socialiste, je demande à M. Hollande de prendre ce taureau par les cornes. Donc je crois qu'aujourd'hui, on a des modèles. Ces modèles, si on veut les tenir, il faut qu'on puisse prendre des décisions sans pour autant se fermer sur soi-même. Et aujourd'hui, critiquer les politiques, c'est extrêmement facile puisqu'il faut toujours trouver un exutoire. Je vous l'ai dit en préambule, c'est le parallélisme des formes. La politique appartient à chacun d'entre nous et je crois qu'il faut que chacun vienne apporter sa pierre et peut-être que le monde fonctionnera mieux.
Est-ce que vous représentez l'aile sociale de l'équipe Brigitte Barrège?
Je ne sais pas. En tout état de cause, je suis très proche du social. C'est une évidence.
Merci Thierry Deville d'avoir accepté notre invitation dans ce rendez-vous politique hebdomadaire sur CFM Radio. La semaine prochaine, Kader Youb, on fait une pause la semaine prochaine, c'est ça?
On se retrouve dans 15 jours.
Merci à vous de m'avoir invité et j'en profite pour souhaiter tous mes vœux à vos auditeurs, des vœux de santé surtout et de sérénité pour chacun.
Merci Thierry Deville.
Qu'il vive dans l'harmonie.
Si vous avez raté toute ou partie de cet entretien, vous le retrouvez ainsi que tous les rendez-vous politiques précédents sur cfmradio.fr.
CFM, il est 17h30.
CFM.